C'est fascinant. J'ai l'impression que l'auto que je conduis aujourd'hui va être complètement différente d'ici 5-6 ans grâce à vous. C'est tellement incroyable ce que l'innovation et son intégration dans la vie quotidienne peut changer. On ne s'en rend pas compte. Notre quotidien, là, c'est vraiment extraordinaire. Tu es le PDG de E2IP, mais je pense que j'ai cru comprendre que tu venais du monde de la vente. Donc, peut-être parle-moi un peu de cette transition-là, de comment tu es devenu le PDG.
Wow, OK. j'ai commencé ma carrière comme vendeur. C'est toujours ma passion.
Vendeur de quoi?
Je travaillais dans l'industrie de la haute technologie, principalement les logiciels de gestion d'entreprise.
OK. On reste en technologie, là. On ne vendait pas des autos.
Non. Et spécifiquement, j'ai travaillé beaucoup à déployer ces systèmes de gestion de productivité, de gestion d'opérations dans des environnements manufacturiers, dans des environnements de chimie. Donc, j'ai eu la chance de visiter plein de planchers de production des plus grandes entreprises du monde. Et j'ai fait ça pendant à peu près les 10-15 premières années de ma carrière. Après ça, j'ai fait un passage en télécommunication sans fil satellitaire. Les premiers balbutiements de ce qui était l'Internet des affaires, des objets et les communications machine à machine. Dans ce contexte-là, j'ai développé des marchés en Amérique du Sud, en Europe, pour une compagnie qui a éventuellement été achetée par Inmarsat, qui est le plus gros réseau de communication satellite au monde. Et ça m'a permis vraiment de développer une nouvelle passion qui était la gestion de produits, la conception de produits, l'arrimage des possibilités technologiques avec les opportunités dans le marché, l'architecture de produits, le marketing de produits. Et je me suis vraiment beaucoup amusé dans cet espace-là. Puis après ça, j'ai fait un dernier bout de chemin où j'ai consciemment développé une expérience en opération et en gestion de groupes opérationnels dans le but d'avoir une plus grande connaissance et une plus grande fondation pour être PDG. Puis j'ai fait 8 ans chez TouchTools, qui est le leader mondial du divertissement à l'extérieur de la maison, le plus gros réseau de divertissement à l'extérieur de la maison au monde, 150 000 restaurants, bars et lieux publics à travers le monde. TouchTunes a inventé le concept de choisir de la musique digitale par l'entremise d'un touchscreen. Ça prédate Apple. C'est l'inventeur du jukebox digital. Une compagnie qui a été fondée ici à Montréal et qui est maintenant américaine. Et on a eu toute une croissance et tout un chemin. J'étais le directeur général l'esprit exécutif opération, chaîne de réapprovisionnement chez TouchTone avant de venir chez lui.
Quel parcours, je me questionne quand tu parles de qu'est-ce qui te fascine dans la technologie? Pourquoi tu as œuvré toute ta carrière dans la technologie?
En fait, ce qui me fascine, c'est l'innovation, quelle qu'elle soit. Et on retrouve beaucoup d'opportunités d'innovation dans le domaine technologique. Fait que j'ai une passion pour la technologie, oui, mais ma première passion, c'est vraiment l'innovation. J'ai particulièrement du plaisir et de l'intérêt à comment on peut transformer des besoins essentiels, des opportunités ou des défis en quelque chose de plus valorisant pour tout le monde dans l'écosystème par l'entremise de la technologie. C'est vraiment pour ça qu'on a commencé le développement de 2IP. Et on a commencé par la base industrielle de la compagnie, la base de développement d'ingénierie et de fabrication des équipements et des technologies traditionnelles. Et on a développé la crédibilité, la reconnaissance et la fiabilité avec ces géants mondiaux-là. Et par la suite, on intègre l'innovation technologique à l'intérieur de ces relations clients-là. Donc, on a géré les relations clients, on a bâti une infrastructure de fabrication de classe mondiale avec le centre de fabrication au Maroc et on est en train de faire un nouveau centre à Montréal de 115 000 pieds carrés ici à Montréal qu'on va ouvrir en 2024. Et en parallèle, on a fait le développement technologique qui a mené à ces nouvelles opportunités-là. Versus toute ma vie, on a commencé par la technologie puis on essayait d'amener la technologie dans le marché. Ici, on a commencé par le marché et les clients, puis on a introduit la technologie.
Mmh. Et parlons un peu exportation, hein, c'est le sujet fort de ce balado-là. Je pense que vous faites des affaires un peu partout dans le monde. 2IP est vraiment très bien exporté à l'international. Quelle part de votre activité repose sur l'international? Est-ce que votre marché est plus local ou en majeure partie vous exportez votre produit?
90 à 95 % exportation.
Pourquoi?
Parce que les marchés sont infiniment plus gros à l'extérieur du Canada qu'au Canada. Donc, on est naturellement appelé par ces marchés-là. Il y a 24 heures dans une journée, puis tu suis beaucoup l'opportunité, puis l'arrimage avec les clients, puis la majorité, les grands donneurs d'ordre dans les marchés dans lesquels on travaille sont des compagnies qui sont installées à l'international. Ça va être appelé à changer un peu avec les nouvelles technologies. Ça va nous permettre de se repositionner avec quelques-uns des grands donneurs d'ordre mondiaux canadiens. Et ça, c'est bien, mais je vois pas comment l'entreprise va doubler de revenus dans les trois prochaines années. Puis je pense pas que le pourcentage va changer. Même si on double le revenu au Canada, ça va rester 90 à 95 % d'exportation. Donc, l'exportation, c'est ce qu'on fait.
C'est votre grande opportunité de croissance.
C'est notre marché au complet. Là. C'est qui on est.
Puis, quelle région géographique vous privilégiez ou semble offrir le plus d'opportunités de croissance pour vous?
Bien, c'est toujours les États-Unis. C'est vrai pour toutes les compagnies. Puis, c'est aussi vrai pour nous. Le Canada avait jusqu'à récemment une économie qui était juste un peu moins grosse que celle de la Californie. Maintenant, la Californie a une économie plus grande et une population plus grande que le Canada. Et nous, on se compare au Texas, qui est à peu près maintenant le même produit intérieur brut que le Canada et la même population que le même produit intérieur brut que le Canada. Donc, évidemment, là, on parle d'un ratio de minimum pour un entre le Canada et les États-Unis, mais c'est même beaucoup plus que ça, parce que les sièges sociaux et le design industriel, que ce soit les plus grandes compagnies de design industriel, Schwab, IBO, sont aux États-Unis et créent l'opportunité pour nous aux États-Unis. En aérospatiale, Montréal est la troisième plus grosse grappe industrielle aérospatiale au monde. Évidemment, Seattle est la première, Toulouse est la deuxième. Montréal est la troisième et le Maroc est la quatrième. Donc, c'est très destiné aussi qu'on soit à Casablanca. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités aérospatiales qui est en Europe. Et l'Europe représente, en termes de pourcentage relatif de notre revenu, la plus grande opportunité de croissance pour les années à venir.
Dans quel secteur? Est-ce que justement c'est l'aviation? Est-ce que c'est l'aéronautique? Est-ce que c'est l'industriel, le médical?
Aéronautique, médical, en priorité, c'est vraiment les deux plus grandes opportunités. Mais électroménager et automobile pourraient facilement dépasser ces deux marchés-là et même rapidement. Il y a une très, très grande opportunité pour le marché de l'automobile et des électroménagers qui est basé en Europe.
Bien, je vous souhaite le succès dans ces marchés-là. Je vois que vous êtes vraiment dans plusieurs pays. 95 % de votre revenu d'affaires provient de l'exportation. C'est quoi les secrets qui vous ont permis de vous développer dans un si grand nombre de pays? Parce que, tu sais, quand on se lance dans l'exportation, bon, il y a des exigences au niveau du marché mondial. Il y a évidemment le rythme des changements en technologie, c'est ultra rapide. Tout, on dirait que tout accélère au niveau technologique. Comment vous maintenez votre compétitivité?
La façon qu'on maintient notre compétitivité et qu'on augmente notre compétitivité est par le biais de l'innovation. Et l'innovation technologique dans la transformation d'une industrie mondiale, très bien installée, mais qui a des défis au niveau de sa transformation et de son évolution, c'est l'innovation dans cet espace-là qui est notre avenir et c'est ce qui nous différencie et c'est ce qui attire les grands donneurs d'ordre à venir vers nous et travailler avec nous pour redessiner comment leur produit est utilisé par nous tous, dans notre quotidien, réduire l'empreinte écologique de leur produit. Maintenant, c'est justement la possibilité que cette innovation-là offre à nos clients qui nous tire vers les marchés internationaux. Et je pense que c'est, quand on pense à l'exportation, c'est évidemment beaucoup plus facile de pénétrer un marché quand on est appelé par les joueurs de ce marché-là à venir ajouter de la valeur à leurs produits. Et c'est comme ça qu'on a développé nos marchés. Maintenant, on arrive à une phase de notre croissance où, pour supporter ces relations-là et pour être un partenaire à valeur ajoutée sur tous les fronts que nos clients nous demandent et exigent qu'on soit actif, la chaîne de réapprovisionnement, la fabrication, les niveaux de certification très élevés pour médical, aérospatial, etc., la qualité, pour être capable de respecter ces besoins-là puis de les livrer, il faut maintenant être présent dans les marchés internationaux. Ça, c'est complètement différent. Ça, c'est un défi d'exportation considérable. C'est pour ça qu'on a une usine à Casablanca. C'est pour ça qu'on va avoir, on va ouvrir des bureaux, des capacités de production dans des marchés comme l'Europe, potentiellement aussi l'Inde. Et puis ça, c'est tout un autre niveau par rapport à l'exportation, là. Ça, c'est de longue haleine. C'est très exigeant. Puis ça demande des investissements importants avant que le revenu soit disponible.
Tout à fait. Est-ce que, justement, quand vous rencontrez vos clients, est-ce qu'eux cherchent à réduire leur empreinte écologique? Est-ce que c'est un argument de vente pour vous? Ou vous arrivez comme cette solution-là? Puis est-ce que c'est quelque chose que vous mettez de l'avant puis qui ajoute de la valeur pour vos clients? Est-ce que c'est une conversation que vous avez ou pas du tout? C'est vraiment juste prix, retour sur investissement, expérience client?
Il n'y a aucune interaction commerciale, aucune discussion de design, aucun engagement avec un client qui n'est pas caractérisé par une volonté forte de réduire l'empreinte écologique. Ce n'était pas le cas il y a un an. C'était encore moins le cas il y a 3 ans. Et c'était non existant il y a 7 ans quand on a commencé le programme de développement. Mais malheureusement, l'empreinte écologique et le climat est devenu très pertinent pour nous tous en tant qu'êtres humains au cours des, spécifiquement les 3 dernières années. Puis, au-delà des évidences ESG que toutes ces grandes entreprises-là ont, environnement, environmental, social and governance, en tant qu'êtres humains, on est tous touchés par le climat depuis quelques années, hein. Je manque des meetings en Europe parce que je ne peux pas décoller, parce que les feux de forêt ne me permettent pas. Je manque un avion. Ça devient réel dans la conversation. Je parle avec une des plus grandes sociétés françaises, puis on parle du fait qu'il n'y a pas d'eau dans 700 villages au cœur de la France. On peut continuer et continuer. Il n'y a rien qui se discute sans l'empreinte environnementale aujourd'hui.
Bien, je suis contente d'entendre ça. Je m'inquiète de savoir si est-ce qu'il est trop tard, mais bon, il faut garder l'espoir. Hein, l'humain, on est comme ça quand on est face devant l'eau du robinet qui coule noir. On se rend compte de l'importance de l'eau. Sinon, ben, on vit comme si tout est beau dans le meilleur des mondes, ce qui est en partie vrai, mais je pense qu'on est de plus en plus confrontés là, aux impacts environnementaux, sociaux. Puis, oups, ça arrive dans notre cour. Puis, oups, soudainement, là, je content d'entendre que depuis un an, ça fait partie là, inhérente de vos conversations. C'est encourageant.
Il faut malheureusement ressentir cette anxiété climatique-là. C'est ce qui malheureusement mobilise l'être humain à agir. Puis il ne faut surtout pas l'ignorer. Puis il n'y a personne qui l'ignore aujourd'hui parce qu'elle est devenue tangible et réelle dans la vie du quotidien. Qui est à la fois bien et malheureux parce qu'il a fallu se rendre là pour que ça soit une anxiété réelle. Moi, je demeure très confiant de notre capacité d'innover et de relancer ou renverser cette tendance-là. Mais il est évident qu'on a passé un point de non-retour et que même le renversement renverser les grands mouvements climatiques qui sont en cours en ce moment, va quand même probablement pendant des décennies causer des défis. Là. On peut peut-être arrêter d'empirer la situation, mais on ne pense pas qu'on peut éviter beaucoup de défis pour les plusieurs décennies à venir.